Bonjour à tous. Et puis voilà, on va essayer d'être à la hauteur, entre guillemets. Alors vous le savez, en principe, j'aime bien m'inspirer de choses de la vie courante, des événements de la vie courante. Donc je vais vous... Oui, vas-y, règle, parce que moi je me bagarre toujours. Voilà. Je vais vous demander d'imaginer, j'aime bien le faire, hein, des situations que vous avez peut-être vécues ou que vous vivrez un jour. Alors la première situation, vous partez faire des courses, par exemple à Auchan, je mets Super U, je mets Lidl et je rajoute Match pour pas qu'on m'accuse de faire de la pub. Match, je l'avais pas mis, mais je l'ai rajouté. Pour ne pas citer d'ailleurs un seul magasin, effectivement. Vous arrivez à la caisse, voilà, presque c'est là, vous êtes là, et voilà qu'une personne avec son chariot, hop là, tac, se glisse devant vous. Alors en plus, désolé pour les cheveux blancs, hein, mais si c'est quelqu'un qui a les cheveux blancs, c'est encore plus agaçant, ils auront le temps, les retraités. Je sais de quoi je parle. Alors il y a plusieurs réactions. Bon, la première, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, le ton compte beaucoup. Je fais remarquer à cette personne qu'elle vient de me passer devant. Je lui dis, si vous êtes pressé, allez-y, je vous en prie. Ça, pour moi, c'est la mieux. On peut la faire sur un ton plus agacé. Bon, puisque vous êtes là maintenant, ben, passez. Mais le ton est là. La deuxième réaction possible, c'est d'être beaucoup plus ferme et de dire, désolé, j'étais devant vous, ce n'est pas correct, et je vais repasser devant vous. À vous de choisir la vôtre. Hein. Alors maintenant, j'ai encore une situation plus énervante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive souvent. Vous êtes sur le parking à Haguenau, vous savez que vous n'avez qu'une heure gratuite. Vous êtes rentré, ça fait 7-8 minutes que vous tournez. Et là, je pense que vous m'avez vu venir, vous voyez une place. Vous arrivez, vous mettez comme ça pour entrer en marche arrière, vous enclenchez la marche arrière, et blanc, il y en a un qui rentre en marche avant à votre place. Ouais, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive, hein. Moi, du coup, je rentre toujours en marche avant, hein, ça, c'est ma combine. Et c'est vrai. Donc, cette voiture, ben, vous prend votre place, voilà, tout simplement. Donc, première réaction, pareil, un gros coup de klaxon, on ouvre la fenêtre, on fait des gestes pour montrer qu'on n'est pas content. Le conducteur sort tranquillement de sa voiture, claque la porte, vous ignore et s'en va. Bon, ben, je vais chercher une autre place. Deuxième réaction, vous êtes plus nerveux, un peu plus chaud. Alors là, vous sortez de la voiture, déjà l'air très en colère, furieux. Vous vous dirigez vers la portière. Et à ce moment-là, le chauffeur descend de la voiture. Il a une tête de plus que vous. Il est carré. Bon, ben du coup, vous partez en râlant, mais pas trop fort. Vous montez dans la bagnole et vous repartez. Alors pourquoi vous donnez des exemples comme ça? Ben tout simplement parce que figurez-vous que dans la Bible, il y a un moment où ça s'est passé à peu près comme ça. Alors vous trouverez cet épisode dans Marc chapitre 2 verset 1 à 13, et vous le retrouverez dans Matthieu et dans Luc, et peut-être encore dans d'autres évangiles, je n'ai pas tout vérifié. Il est cité au minimum 3 fois. Donc c'est un événement important, et plutôt que de le lire, je vais un peu vous le résumer à nouveau. Donc Jésus était pas très loin de Capernaum à l'époque, et il allait prêcher un peu partout. Et là, en plus, il avait fait des miracles. D'ailleurs, à Capernaum, il avait guéri la belle-mère de Pierre, qui avait une forte fièvre. Il avait guéri lépreux, il avait guéri des démoniaques. Donc, la foule le suivait jour et nuit. Et c'était même un problème, parce qu'à Capernaum, il y avait beaucoup de monde qui logeait même autour de la ville. Et là, donc, Jésus, ce jour-là, redécide à nouveau de revenir à Capernaum, dans son quartier général. Et il est dans la maison de Pierre, et il prêche la bonne nouvelle. Alors tu pourras peut-être afficher la maison de Pierre à l'occasion, comme ça on comprendra mieux. Donc il y a un monde fou autour de la maison, et là voilà que 4 hommes arrivent avec un homme, avec un paralytique sur une civière. Donc cette civière, elle est très très simple, elle est faite de 2 bouts de bâton, des branches de palmier tressées, et voilà comme ils arrivent. Et là, pareil, vous pouvez imaginer la scène. Il y a la foule. Je pense que vous voyez la maison, comment c'est fait, et puis il y a une cour, tout est bloqué même jusque dehors. Il y a la foule qui est là, et là, ses amis arrivent, et on peut imaginer qu'ils sont arrivés en disant « Pardon, s'il vous plaît, laissez-nous passer, c'est pour notre ami, il faut absolument qu'on voie Jésus. » Il y aura toujours quelqu'un qui va répondre « Désolé, faites la queue comme tout le monde. » On peut imaginer, hein. Et eux qui répondent, mais vous voyez bien l'état de notre ami, ben, il ne peut pas attendre aussi longtemps, ce n'est pas possible. On serait obligé de le poser sur le sol, et le sol est beaucoup trop dur pour lui, ça serait vraiment pas faisable. Et bien sûr, d'autres réponses qui fusent, ah ben, nous aussi, nous avons tous nos problèmes, nous devons aussi voir Jésus. Alors je me suis dit, je pense, enfin c'est moi qui le suppose, mais que les gens à cette époque n'étaient pas beaucoup plus cool que maintenant, et pas moins égoïstes que maintenant. C'est sûr, chacun pense que son problème est plus grave que celui de l'autre. Et surtout, quand il y a un problème de santé, on est bien d'accord, on est tous pareils. Du coup, malgré cette opposition, alors en jouant des coudes, en bousculant, on imagine, ils ont bousculé un peu tout le monde, ils ont pu atteindre cet escalier qu'on voit sur la photo, et monter sur le toit, et arriver au-dessus de la pièce principale où Jésus prêchait. Alors je ne sais pas s'ils avaient amené des outils, comment ils se sont débrouillés. Dans des commentaires, on dit qu'il y avait quelques tuiles qu'ils ont enlevées, enfin je ne sais pas. En tout cas, ils avaient des cordes, ça c'est sûr. Et là, ils décident de faire un trou dans le toit. Et très rapidement, ils tombent apparemment, les plafonds, c'était des lattes avec un peu de plâtre. Et très rapidement, ils tombent là-dessus. Alors vous imaginez la scène, je ne sais pas comment ils ont creusé. Mais ce qui se passait en bas, quoi. Tout d'un coup, des bruits, du plâtre qui descend, des pieds, des mains, enfin je ne sais pas comment ils ont tapé. Et toute la poussière du plafond qui tombe. Et là, cette civière qui arrive devant Jésus, devant ses pieds, descendue par ses hommes. C'est le comble du culot, quand même, ce qu'ils ont fait. Mais surtout, ils ont fait preuve d'une persévérance et d'une fidélité qui les a aidés à franchir tous les obstacles. Imaginez aussi la réaction, j'ai dit du propriétaire de la maison, apparemment c'était la maison de Pierre et André. Mais bon, j'imagine ça, ça ne va pas faire un trou dans mon toit. Ben, enfin, ça va vous coûter cher, cette histoire. J'espère que vous avez une bonne assurance. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Il n'y a pas d'assurance à l'époque, je pense. Mais bon, j'y ai pensé. C'est vrai. Effectivement, c'était la maison de Pierre et André qui étaient des disciples de Jésus. Mais je ne suis pas sûr que les hommes-là le savaient vraiment. Et je pense qu'ils ne se sont même pas posé la question. Ils ont pris tous les risques pour leur ami. Et lui aussi a dû faire une confiance totale. Parce que vous vous imaginez, s'il y a eu un problème, ce n'est pas lui qui aurait pu partir en courant. Lui, il était bloqué, quoi qu'il arrive. Devant Pierre et André et les religieux, cette situation incroyable, qui aurait d'ailleurs pu déclencher un mouvement de foule, hein, des gens furieux qui auraient pu vouloir rentrer, et là, Jésus qui les accueille par cette parole. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Oh. Il est donc dit d'ailleurs dans le texte que Jésus, ayant vu la foi de ses amis, cette foi l'a poussé à agir tout de suite, à réagir tout de suite. Elle a produit un effet rapide. Je me suis aussi mis dans la tête de notre homme qui est allongé devant Jésus. Mais Jésus, je suis là pour être guéri. Il y a d'autres textes d'ailleurs où Jésus pose cette question. C'est bien de pardonner les péchés, mais je voudrais surtout marcher. Je pense qu'il y a une erreur de diagnostic. Il y a un problème. Dans un coin, quelques scribes, des docteurs de la loi, c'est leur boulot, c'est de transmettre la loi et de l'expliquer, n'est-ce pas ? C'est des, comme on dit, des vrais spécialistes. Ils sont choqués. Ils blasphèment. Personne ne peut pardonner les péchés. Seul Dieu le peut. Pas un homme. Le raisonnement n'est pas faux. Et en fait, ils n'ont rien dit. Comme on dit, ils l'ont pensé si fort que... Voilà. Mais en fait, Jésus, par l'esprit, connaît leurs pensées. Alors Jésus leur pose cette question. Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « prends ton lit et marche » ? Bonne question. Pas de réponse. Personne ne peut répondre. Alors moi j'ai imaginé, c'est vrai qu'on pourrait penser, c'est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés ». Personne ne peut le contrôler de toute façon, il n'y a pas de problème. On ne peut pas le vérifier. Et en plus, quand on pense que c'est un homme quelconque ou un homme comme nous qui le dit, ça peut être du bluff. Oui, on peut pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort. On peut pardonner une personne individuellement, mais pardonner tous les péchés d'un homme, c'est impossible. Déjà, il faudrait les connaître pour pouvoir tous les pardonner. Là-dessus, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. » En fait, Jésus, lui, il n'a même pas fait payer de consultation, pas de problème. Il renvoie cet homme avec ses amis, en toute simplicité, chez eux, Et il ne leur demande même pas de réparer le toit. Alors, il y a plusieurs points, on pourrait souligner énormément de points dans ce passage que je vous ai raconté au lieu de le lire, et puis un petit peu arrangé à ma façon, hein, c'est vrai. Il y a d'abord la mise en valeur, et on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, la mise en valeur de l'amitié. Alors, c'est cette amitié à toute épreuve qui a conduit le paralytique à Jésus. Alors, il y aura l'amitié des amis du monde, mais là, c'est une autre amitié encore, on peut supposer. La foi de ses amis, mais aussi, c'est ce que j'ai dit, la sienne de cet homme. Cette foi qui est devenue de la persévérance. Parce que les porteurs, on peut se mettre à leur place, ils auraient pu dire, écoute, c'est impossible, laisse tomber, tu vois, le monde qui est, on ne passera jamais. Et comme je l'ai dit, le malade aurait pu dire, mais ça ne va pas, s'il y a un problème, moi, vous pouvez partir en courant, mais moi, c'est cuit, je ne peux rien faire. Mais par contre, ce que je voulais souligner, c'est que Jésus a tout de suite perçu, c'est dans le texte, il a perçu la foi de ces cinq hommes. D'un coup, il a vu. Et donc, à souligner, et on a déjà beaucoup entendu parler, voilà l'importance d'avoir des amis. Je l'ai dit, on peut avoir des amis dans le monde, on peut avoir des amis sur qui on peut compter, mais en plus, quand ce sont des sœurs et des frères en Christ, là, c'est encore, j'allais dire, entre guillemets, plus fiable, et ça devrait l'être. L'importance d'être dans l'Église pour être aussi porté, alors déjà j'ai marqué porté par la prière, parce que ça commence par la prière déjà, de porter quelqu'un ou de porter des personnes dans l'Église. Et la prière est efficace, et je le dis chaque fois, les chrétiens de l'Église persécutée, qui sont seuls, complètement paumés, disent ressentir qu'il y a le monde libre qui prie pour eux. Ils le ressentent et c'est un témoignage qu'ils donnent toujours. Il y a un deuxième point important, nous avons aussi cette image de cet homme déposé au pied de Jésus. Et c'est aussi pour ça que Jésus le pardonne en premier ses péchés. C'est comme s'il avait été déposé, on vient de le célébrer, c'est comme s'il venait de le déposer au pied de la croix. Jésus n'était pas encore mort, pas encore ressuscité, mais ce geste, c'était comme un dépôt de leur ami au pied de la croix. Alors la maladie était une conséquence du péché de l'homme. Alors tout de suite, je dis attention, pas de cet homme forcément. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la maladie, elle vient de la chute, du temps d'Adam et Ève. Ça vient de là. C'est pas ce bonhomme-là. Certains commentaires soulignent que Jésus connaissait sûrement le passé de cet homme, mais nous ne pouvons pas en déduire que c'était un pécheur pire que les autres. Non, non, il est comme tout le monde, comme moi, comme vous et moi. C'était un pécheur. Donc, surtout ne pas faire ce lien entre cette maladie et le péché de cet homme. C'est pas la punition pour lui, ce n'était pas une punition. Nous ne savons pas son passé. Vous le savez comme moi, avant la chute, tout était bon. Quand Dieu a fait la création, il a dit « tout est bon ». Et les conséquences de la chute, nous le savons tous, nous les vivons, tous les dérèglements que nous vivons, alors santé, climat, guerre, dictateur, vous pouvez mettre la liste qu'il y a en ce moment, vous regardez les infos et vous avez une liste très longue. L'homme a rejeté Dieu. Un autre message, une fois que Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », il est venu la deuxième étape, et c'est celle qui nous semblait la plus difficile, c'est celle de la guérison, en fait, hein, qui pour nous, humains, ce n'était pas possible. Et c'était celle de remettre cet homme, de le guérir, de le remettre debout. Et cette image, le remettre en marche, c'est l'image de la nouvelle naissance, en fait. Pour cet homme, c'était une nouvelle naissance. On l'a amené au pied de la croix, Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », et il a dit « lève-toi, prends ton lit et marche, et va chez toi ». C'était une nouvelle naissance pour cet homme. Il y a déjà toute cette image derrière ce qui s'est passé là. Jésus peut pardonner les péchés, nous venons de le dire, parce qu'il a payé le prix sur la croix. Et dans un deuxième temps, comme pour cet homme, il nous remet debout en marche. Et il nous invite, d'ailleurs, si on regarde le texte, à retourner chez nous pour être des témoins. Et comme nous l'avons entendu dimanche dernier, être chrétien, ça veut dire être disciple. Donc, mais il y a cette image, dans tout ce qui se passe, il y a aussi cette image que Jésus veut donner au travers de ce qui s'est passé là. Alors il y a aussi de la part de Jésus un message pour les religieux. Alors les scribes, qui étaient visés, en leur posant la question « qu'est-ce qui est plus facile, pardonner des péchés ou la guérison ?» il leur indique clairement qu'il est bien le Messie, le Fils de Dieu. Il veut leur mettre les points sur les i. Alors c'est vrai, ils sont aveuglés. Pourtant, ils connaissent les prophéties concernant le Messie. Mais ils ont une connaissance intellectuelle de la parole. Cela ne suffit pas. Il leur manque en fait l'essentiel, la foi. Cette foi qui renverse les montagnes, on en a aussi encore parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais beaucoup de personnes sont comme eux. Et je l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps. Tant qu'on parle de Dieu, souvent, ils sont d'accord. Oui, Dieu, il y a quelqu'un qui a créé, tout est beau, ça il n'y a pas de doute. Ils sont d'accord avec vous tant que vous parlez de Dieu. Ils le mettent un petit peu à leur sauce, ça c'est vrai. Mais dès que l'on commence à parler de Jésus, souvent ça coince. Et je ne sais pas, pour ceux qui lisent Info Chrétienne, aux États-Unis, il y a actuellement toute une vague d'églises ou même d'autres personnes. Ils ont fait une campagne de publicité, « Jésus n'est pas le Fils de Dieu ». Donc il refuse ce truc-là. Et il y a un chrétien, et alors il a fait le buzz, parce qu'il repasse avec une échelle et il cache une partie des phrases, et à la fin ça donne « Jésus est le Fils de Dieu ». Et donc ça fait le buzz, il passe partout et il met ça. Petite parenthèse, mais quand je l'avais écrit, je ne le savais pas encore. Alors, pourquoi ça coince? Pourtant, ça peut paraître simple. Et on en a beaucoup parlé ce matin, merci Laetitia. Tu as dit l'essentiel. Qui dit Jésus, déjà dit reconnaître que l'on est pécheur. C'est la première chose. Quand on accepte que Jésus est mort sur la croix, qu'il est bien mort, vraiment physiquement mort, est mort pour moi, est mort pour mes péchés, après vient l'étape de croire qu'il est vraiment ressuscité, qu'il a vaincu la mort et qu'il nous a promis cette vie éternelle. Ça, c'est aussi une étape. Et que par lui, parce qu'il est mort, c'est par lui que nous avons cette vie éternelle. Alors, ça ne paraît pas compliqué et pourtant, c'est difficile pour beaucoup. Ça paraît simple pour quand vous l'entendez depuis longtemps et que voilà, l'Esprit vous a donné aussi cette certitude. C'est quelque chose qui paraît simple et pourtant ça ne l'est pas du tout. Et surtout, même je dirais, dans ce siècle que nous vivons, et quand je vois ces campagnes qui reviennent, on voit que c'est Jésus qui dérange, c'est lui le problème pour beaucoup. C'est à cause, dans Matthieu 17, verset 20, c'est Jésus qui a dit ça aux disciples, c'était dur d'ailleurs à ce moment-là, je trouve. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme une graine de sévenet, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. J'aime bien les images, hein, je vois bien, tiens, tu te déplaces la montagne, là, ça, comme ça le matin j'ai le soleil. Mais des paroles étaient dures, les paroles de Jésus, là. Hein, c'était vraiment un truc choc qu'il leur a donné là. Hein. Alors je dirais que, pour conclure, je pense, ça a été aussi dit que dans notre vie, nous connaîtrons tous des périodes. Difficile, et nous aurons besoin d'amis du monde peut-être, mais aussi surtout de frères et sœurs, quand on a parlé de famille, de l'Église qui est une famille, d'où l'importance. Et ces frères et sœurs, à ce moment-là, pourront venir nous aider à revenir au pied de la croix. Et par contre, d'autres fois, ça sera peut-être à nous d'être un de ces quatre amis, à être présent, persévérant, disponible, enfin la liste est longue, à l'écoute, hein, comme tu as dit, ne pas avoir la solution, mais à l'écoute. Et je disais justement que j'ai noté encore une fois que dans toutes ces situations, qu'on soit aidé ou aidant, la prière est capitale, elle est capitale avant d'agir. Prier et demander comment faire, quoi faire. Mais après, il faut être aussi prêt à passer à l'action, à agir. Et avoir cette foi qui peut déplacer les montagnes. Et ça, c'est vrai que seul l'Esprit peut nous pousser, nous donner la conviction, maintenant, là, il faut que je fasse ça. Je dois y aller, je dois le faire pour ce frère, pour cette sœur ou dans telle situation. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, des fois, coûte. Hein, quand on aide des personnes, il faut le reconnaître, on s'engage, mais on reçoit aussi beaucoup de bénédictions. Alors, je ne vais pas rallonger. Je voudrais vous laisser, j'aime bien laisser des citations, vous devez le savoir. La première, c'est sur l'amitié, elle n'est pas très longue. Elle dit ceci, « Un véritable ami est celui qui entre quand le reste du monde sort. » Donc je vais vous la redonner. « Un véritable ami est celui qui entre quand le reste du monde sort. » Là aussi, j'aime bien cette image. Il y a tout le monde qui sort et puis il n'y en a qu'un qui rentre après pour aider. Alors, elle est de Walter Winchell, c'est un Américain qui était journaliste, acteur, scénariste. Il est mort en 72, ça c'est pour votre information. Et puis, une deuxième citation sur la foi. Avec la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas la fin de l'escalier. Avec la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas la fin de l'escalier. J'aime bien ces deux images. Celle-là, elle est de Martin Luther King, pour votre information. Et voilà, je n'ai pas donné de titre de message au début parce que je ne voulais pas dévoiler. Il y aurait pu y avoir plusieurs titres. L'amitié, il y aurait pu y avoir la solidarité, il y aurait pu y avoir la foi, la persévérance, ou on aurait pu les mettre ensemble, l'amitié et la solidarité, ça va ensemble, la foi et la persévérance. Voilà ce que j'avais à cœur ce matin. Juste pour information, ce message était prévu quand on avait le Covid. Et David ne le rappelle peut-être pas, mais je l'ai enregistré tout seul dans la salle avec toi. Bon, je l'ai refait depuis. Hein. Mais je me suis dit, j'avais déjà ce thème, mais c'est vieux. Et on était tous les deux dans la salle, et voilà, pour la petite histoire. Voilà, je voudrais terminer par la prière encore. Oh Seigneur, merci encore pour cette parole. Merci Père de nous avoir donné accès à toi par Jésus. Merci pour ce sacrifice que nous avons célébré encore ce matin. Et c'est vrai que accepter Jésus, c'est faire un pas, mais ce pas qui nous mène à la vie éternelle. Je te bénis, je te loue parce qu'il est fidèle et qu'il est bon. Donne-nous d'être des bons amis, des bons frères et sœurs, d'être cette famille dont nous avons beaucoup parlé ce matin. C'est vrai que ça a été dit, nous sommes dans ce monde, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des maladies. Mais Seigneur, que nous puissions aussi avoir cette foi qui déplace les montagnes et donne-nous aussi ce zèle pour nos frères et sœurs. Merci de veiller encore particulièrement sur tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Tu vois ces situations, tous ces morts au Nigeria, tous ces morts partout, ou ces gens emprisonnés, Seigneur, injustement. Seigneur, que nous ne voulons pas les oublier ce matin. C'est vrai que là, nous pouvons prier pour eux, nous pouvons aussi faire des dons et des choses comme cela, mais toi, tu es souverain et tu connais toutes choses. Et donne-nous aussi, Seigneur, d'être attentifs à nos frères et sœurs et d'être disponibles. Amen.